Nous sommes dans Tite, l'épître de Paul à ce jeune pasteur qui se trouve en Crète, cette grande île de la Méditerranée orientale, qui était réputée à l'époque pour avoir des gens pas très commodes, puisque Paul les décrit comme, selon ce qu'il disait, ce qu'un de leurs écrivains, qu'il considérait comme un prophète, disait « Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Tite avait une sacrée mission, une mission pas évidente, mais Paul lui donne des conseils pour établir des églises, pour qu'il règle ce qui n'avait pas été terminé, et notamment pour qu'il établisse des anciens, des responsables dans chaque ville, chaque église, chaque groupe de quartier qui devenait une église, et puis aussi pour les enseigner dans la parole, pour leur dire ce que la parole de Dieu déclare. Et on va lire aujourd'hui, à partir du verset 15 du chapitre 2, on va reprendre ce verset qu'on a commenté la semaine dernière, jusqu'au verset 7 du chapitre 3. Ainsi, dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Nous allons nous arrêter là. Encore une fois, Paul encourage Tite et les responsables d'église qu'il nomme à parler, à exhorter, à reprendre avec une pleine autorité. Et il ajoute que personne ne te méprise. Il faut parler, il faut dire la parole. Quelquefois les chrétiens disent « Oh moi je prêche par ma vie, par l'exemple, pas par des paroles. On n'a pas besoin de prêchi-prêcha, on n'a pas besoin de sermonnette, de sermon. » Mais Dieu s'est révélé par la parole. On peut veiller à ce que notre vie soit en accord avec nos paroles, sinon nous perdons toute crédibilité et les personnes seraient en droit de nous mépriser. Donc lorsqu'il dit parler, encourager, reprendre, c'est à la fois quelque chose de positif envers les congrégations, envers les personnes à qui l'on parle, mais aussi, il y a des fois où on doit leur dire que ce qu'ils font n'est pas correct, n'est pas bien, n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et ça, on doit le faire avec une autorité pleine.
Alors, ça veut dire qu'il faut parler très fort.
Non, ça veut dire que ce qu'on dit doit être conforme à la parole de Dieu. L'autorité, elle ne vient pas de notre grosse voix, de notre grande stature, de nos muscles, de notre beauté, de la voix que l'on peut avoir, elle doit venir de la parole de Dieu. Et là aussi, quand il dit que personne ne te méprise, ça ne veut pas dire « Ah, tu te moques de moi, toi tu es viré ». Non, ça veut dire que notre vie doit inspirer l'autorité. Notre vie doit être conforme à la parole que nous annonçons, et ainsi les gens vont nous écouter. Quelqu'un qui dit quelque chose et qui fait le contraire, au vu et su de tous, il est méprisable. Il n'est pas digne de confiance. Pourquoi serait-il à même de nous parler ? Paul dit à Tite, là encore une fois, vous savez que les versets, les découpages en chapitres et en versets, c'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Quand on écrit une lettre, peut-être que la prochaine lettre que vous écrivez à quelqu'un, vous pourriez faire des chapitres et des numéros de versets. Et comme ça, la personne pourrait contester telle déclaration que vous faites au chapitre 2, verset 17. Mais généralement, on écrit d'un seul jet. Et l'idée de mettre des numéros de chapitres et de versets, c'était de façon à ce qu'on puisse se retrouver dans le texte, en parler, au lieu de relire tout le texte depuis le début et de dire « voilà, maintenant on s'arrête », on pouvait ainsi s'y retrouver. Et c'est quelque chose donc qui n'est pas toujours inspiré et exact. Et là, verset 15 et le verset le premier verset continue un peu la même pensée. Et il dit « tu dois parler, exhorter, reprendre avec une pleine autorité ». Et puis il dit, tu dois leur rappeler d'être soumis au gouvernement, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne. Et là, il va citer toute une liste de choses qu'il faut rappeler. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rappeler les choses ? Parce que vous qui êtes étudiants, qui vous préparez pour les examens, vous savez que votre mémoire peut être défaillante, et que vous avez besoin d'insister sur les choses que vous avez apprises, de les revoir, de les rappeler. Et souvent, en tant que pasteur, j'ai l'impression que vous êtes au courant de l'étude qu'on a faite dans 2 Timothée, mais quand je réfléchis, je me rappelle, c'était il y a au moins 1 an et demi, peut-être certains d'entre vous n'étiez pas là encore, et puis d'autres, vous étiez là, mais vous en rappelez plus. Et je m'en rappellerai peut-être pas complètement non plus. Et donc, il faut rappeler, rabâcher. Si, des fois, vous entendez quelque chose qui... Vous dites, mais ça, James nous en a parlé il y a 2 semaines, dans Colossiens 3. Ouais, écoutez, si c'est répété dans la parole de Dieu, ça veut dire que vous devez le revoir, il faut qu'on vous le rappelle. C'est d'ailleurs l'avantage d'étudier la Bible systématiquement, verset après verset, chapitre après chapitre, livre après livre, c'est que la mesure de la façon dont les choses sont répétées, c'est pas Pierre qui va la dicter parce qu'il a un problème dans tel domaine, ou il pense que c'est une bonne chose, ou c'est son cheval de bataille favori. Non, ça va être la fréquence, la répétition voulue par Dieu. Rappelle-leur toutes ces choses. On dit que on retient 10% de ce qu'on lit, qu'on retient 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit, d'où les méthodes audiovisuelles. Si on voit quelque chose et qu'on l'entend, on va se rappeler de 50% des choses qui nous sont dites. Si vous-même vous dites certaines choses, vous allez vous en rappeler à 70%. Si vous dites et vous faites ces choses, vous allez vous en rappeler à 90%. Autrement dit, ça va devenir une partie de vous, et ce qui compte, c'est que ce que vous entendez, vous le mettiez en pratique et que vous le disiez autour de vous. vous faites du bien à vos voisins, vous les aidez. C'est bien. Ça sera encore mieux si vous leur dites que vous les aidez parce que Dieu vous a aimé le premier et que vous voulez partager son amour de façon pratique. Et donc, le principe du rappel. On a souvent tendance à chercher des choses nouvelles. Et souvent, quand on est jeune dans l'enseignement, les jeunes pasteurs, ils aiment trouver quelque chose que personne n'a encore trouvé. Ça, c'est le fin du fin, on pense. Le danger et la réalité des choses, c'est que si vous trouvez quelque chose que personne d'entre avant vous n'a jamais trouvé dans la parole, il y a de fortes chances pour que ça ne soit pas là et que ce soit votre propre petite idée. Ça a du mérite. Mais plus on prend de la bouteille, j'allais dire, de l'âge, de l'expérience dans l'enseignement de la parole, et plus on se rend compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais qu'il faut répéter et que surtout il faut appliquer dans nos vies. Appliquer, ça devient, on devient transformé, on est transformé par la parole. Et c'est ce que Dieu nous promet. Sa parole va faire cet effet si nous la considérons, si nous la lisons, si nous la méditons, si nous acceptons qu'on nous la répète, si nous nous la répétons nous-mêmes. Ça, c'est l'avantage aussi de mémoriser le texte biblique, des versets. Vous pouvez vous les rappeler et réfléchir. Et peut-être que Dieu va vous donner une idée que personne n'a eue avant vous. C'est pas impossible, mais soyez, cultivez la parole. Donc, rappelle-leur quoi ? D'abord, la relation avec le monde non chrétien. Et un de nos sujets favoris ici en France, c'est le gouvernement et les autorités. Il faut que l'on soit soumis, que l'on respecte et que l'on se place sous le gouvernement, sous les autorités. Le chrétien devrait être le meilleur citoyen du monde, même lorsque un gouvernement n'est pas un bon gouvernement. La soumission à ce gouvernement est un signe de soumission à Dieu, parce que c'est Dieu qui met en place les autorités ou qui les laisse être mises en place. Il les tolère, parce que s'il voulait un coup de foudre, un coup de tonnerre, la personne pourrait être réduite à rien du tout. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités. Alors certains vont dire, oh oui, mais c'est une mauvaise traduction, il n'y a que ce verset qui dit ça dans la parole, c'est pas grave, on peut faire de la résistance, etc. Paul a déjà expliqué cela dans Romains 13. Regardons ensemble parce que c'est très important, surtout pour nous Français. Romains 13, verset 1, page 182 dans la Bible à la Colombe. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Puis le verset 6 que vous allez aimer, si vous le voyez pour la première fois, même si je vous le rappelle, il va dire, il est toujours là ce verset. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ça nous rappelle le verset où Jésus disait « Rendez à César ce qui appartient à César » en montrant sur une pièce le profil de César pour encourager ses disciples à payer l'impôt « Et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu ». On doit être soumis aux autorités et en même temps, il y a une limitation. On doit être soumis aux autorités tant que ce qu'elles nous demandent de faire n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Dans le livre des Actes, au chapitre 5, Pierre et ses acolytes étaient poursuivis par le Sanhédrin et il leur avait défendu d'enseigner la parole et ils avaient rempli la ville. Jérusalem, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et Pierre répond avec les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu mais plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire que c'est si ce que le gouvernement nous demande de faire n'est pas clairement opposé à la volonté de Dieu, plutôt si c'est clairement opposé à la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, on a le droit et même le devoir chrétien de ne pas se soumettre. Si on vous demande de livrer des enfants juifs cachés chez vous, vous avez le droit et le devoir de les garder. Je prends cet exemple parce que c'était une situation réelle, même si on ne comprend pas, si on n'est pas d'accord, mais c'est un principe, il faut être soumis au gouvernement, aux autorités. Façon d'être soumis, d'accepter qu'ils sont en place au-dessus de nous. Et on a vu qu'ils ont un rôle essentiel. Ils nous protègent physiquement des meurtriers, des voleurs. Et on doit leur obéir. On doit obéir à la loi. Alors, nous sommes tous des gens qui obéissons à la loi ici, n'est-ce pas ? Pas sûr. La loi, c'est tous les codes qui sont institués par le gouvernement. Ça peut être, je suis désolé, mais je vais aborder ce sujet, le code de la route. La limitation de vitesse. Et Dieu sait si j'ai fait moi-même mes excuses dans ma tête au cas où je serais arrêté par un policier. Attendez, là la vitesse limite c'est 70 et 50 mètres plus loin c'est 30. C'est pas prudent. Je continue moi, monsieur l'agent, à aller un petit peu plus vite avant de freiner complètement. Et dans ma tête, je fais ces excuses à l'avance. Et encore plus gênant si vous faites du vélo, mes amis. Les feux rouges, c'est aussi pour les vélos. Mon excuse, c'est que je préfère être un peu loin des voitures qui vont toutes démarrer en même temps et qui vont me mettre en danger pour m'avancer un peu dès que la circulation le permet, qu'il n'y a plus de voitures venant en face. Mais c'est mauvais. Il y a quelques années, j'ai perdu le respect, ou une grande partie du respect de Fedosi, notre amie Fedosi, parce qu'elle était toute contente, elle m'avait vu, elle m'avait repéré, elle était dans le bus, facile dans le bus. Elle avait vu que j'étais en vélo. Et elle s'était demandé, tiens, je me demande si Pierre s'arrête au feu rouge. Elle a vu que j'en avais grillé au moins un. Après, j'étais bien loin devant elle, elle ne m'a plus vu. Mais elle m'a repris, elle a dit, Pierre, je t'ai vu, j'étais déçu, tu respectes pas le code de la route. C'est très difficile, je suis un grand impatient. C'est une torture que d'attendre juste parce qu'il y a une lumière rouge plutôt qu'une lumière orange, une lumière verte. Et peut-être c'est pas votre problème non plus, peut-être que vous n'avez pas de problème avec le code de la route, mais ça aussi, les autorités sont là pour nous le faire respecter, elles ont décidé, on a notre mot à dire, entre guillemets, puisqu'on est dans une démocratie où on vote pour certains, et normalement c'est la majorité qui décide des dirigeants, c'est eux qui instituent les règles, et on doit être prêt, on doit être soumis et obéir au code de la route et à toutes les règles, on doit payer nos impôts. On a d'autres façons de protester, on peut écrire à nos députés, on peut être dans des syndicats, il y a des moyens mis en place qui sont légaux pour contester des décisions prises en haut lieu. On a même la liberté de manifester dans la rue. Je vous invite le 13 janvier, si c'est quelque chose qui vous touche beaucoup, à participer, je crois que tout va être à Paris, mais à montrer que tout le monde n'est pas pour le mariage entre homosexuels, que le mariage c'est quelque chose de sacré, c'est une institution divine qu'on galvaude pas. Tout le monde, personne ne veut être marié maintenant sauf les homosexuels. Et on a un président qui lui-même n'est pas marié et qui est prêt à encourager ce mariage. Alors je fais attention à ce que je dis parce que on ne doit pas dire de mal de personne. Entre parenthèses, avec le vélo, l'autre, il y a 2 mois, fidèle à ma doctrine, je préfère m'éloigner des voitures quand elles sont à l'arrêt et passer un peu au rouge. Je me suis fait interpeller devant la station BP par des policiers. J'étais en vélo. Et je sais qu'ils peuvent en fait demander des papiers, qu'ils peuvent même enlever des points sur le permis de conduire, même si c'est la conduite auto. Juste un rappel pour votre sécurité. Et là, j'étais dans mes petits souliers, dans mes petits tennis. Et ça va, le gars a été... Il a dit, vous savez que c'est pour vous aussi. J'ai dit, oui, je suis désolé, j'étais pressé. Il dit, bon, ça va pour cette fois. Et toute la journée, j'étais sage comme un ange. Ça veut dire que j'ai dû partir beaucoup plus tôt pour mes rendez-vous. Et j'ai dû attendre. Qu'est-ce que c'est pénible d'attendre que la lumière change. Mais c'est ce que je dois faire. Et maintenant, je me déguise en vélo. Je mets un bonnet, des lunettes noires pour pas qu'on sache que c'est moi. Non, c'est pas vrai. Être prêt, ça c'est passif, c'est obéir. Mais en même temps, on doit être... Positivement, on doit être prêt à toute œuvre bonne. Paul, dans 1 Timothée 2, disait « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, les présidents, les députés, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Ceci est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » On doit prier, on doit être proactif, on doit prier pour le gouvernement. On doit prier pour François Hollande. On doit prier pour Jean-Marc Ayrault. On doit prier pour les responsables syndicaux. On doit prier pour le maire de la ville. On doit prier pour les responsables. Le résultat, c'est qu'on peut leur, on peut demander à Dieu de les toucher, mais on peut demander à Dieu aussi de préserver la paix pour que nous ayons la liberté de vivre notre foi ouvertement, qu'on ait le droit de passer des, de parler dans les rues, d'évangéliser. Alors on sait que Dieu peut utiliser la persécution pour aussi fortifier l'Église et avancer son royaume. Mais il nous dit de prier pour ses autorités et il nous dit d'être prêt à toute œuvre bonne. On doit être actif, on doit proposer nos services, on doit être à l'aide, être en aide à nos concitoyens, aux gens qui habitent dans nos quartiers, dans notre ville. On doit aider les autres. On doit se proposer aux autorités pour faire des distributions de nourriture, pour faire le ménage dans la rue, On doit être prêt à toute œuvre bonne, toute œuvre belle. Verset 2, Paul nous rappelle, par Tite et par sa parole, de ne dire du mal de personne, de ne pas blasphémer. C'est tellement facile de dire du mal de quelqu'un, et surtout des hommes politiques. Et nous, en France, je crois qu'on est... On doit être dans les champions du monde. On a les guignols, on a la tradition des guignols, du bébé de chaud, des chansonniers. On traite nos responsables comme... des fois, moi le premier, je l'avoue. On critique et on méprise. C'est pas la volonté de Dieu. Il nous demande d'être paisibles, d'être des gens de paix, qui sont pas prêts à se battre. Il y a des gens contentieux, tout ce qu'ils cherchent, c'est la bagarre. Ah ça les motive. Mais on doit être connu comme étant des hommes et des femmes paisibles. Conciliant, c'est le mot qu'on peut traduire par raisonnable. On est prêt à avoir le point de vue de l'autre et à l'accepter comme étant un point de vue peut-être différent du nôtre, mais à ne pas s'en servir de prétexte pour le combattre ou le frapper. On doit être plein de douceur envers tous les hommes. Le texte dit on doit démontrer, on doit manifester de la douceur envers tous les hommes. Cet mot de douceur, c'est le mot qui est des fois traduit par gentil. Le mot gentil aujourd'hui, c'est un mot qui est devenu mièvre, qui n'a pas beaucoup de caractère. Il est bien beau, il est bien gentil. Hein. Mais à part ça, hein, il casserait pas de pattes à un canard. Hein. C'est cette douceur c'est une force qui est sous contrôle. On peut dire d'un cheval, d'un pur sang qui a été dressé, qu'il a cette douceur. Ça ne veut pas dire qu'il est faible. Il est prêt à sauter, galoper, sauter des obstacles, mais on peut le marcher à côté de lui. Il est maîtrisé. Il se maîtrise. C'est quelque chose qui montre qu'on est patient parce qu'on est confiant même dans les circonstances difficiles. On connaît qui peut nous sauver et donc on n'est pas tout paniqué, tout stressé. On est plein de douceur et envers tous les hommes, même ceux qui nous traitent durement. Et la meilleure façon de mettre fin à une attaque, c'est de répondre avec douceur. C'est même un proverbe de la Bible. On répond par la douceur et ça tue la colère. Alors il faut faire attention entre la douceur ironique, qui elle va raviver la colère de l'autre, mais si sincèrement on veut mettre les choses en place et en paix, ça va désarmer la colère de l'autre. Il est bon de rappeler ces choses parce que En fait, si on y pense bien, nous-mêmes, on valait pas mieux que les autres. Verset 3, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Nous étions insensés avant de venir à Dieu, avant d'être sauvés. On n'y pigeait rien. On n'avait rien compris à rien. On voit les gens agir autour de nous, on dit, mais ils ont leur priorité complètement de travers. Ils se stressent pour gagner de l'argent, ils négligent leur famille, alors que ce qui compte, en fin de compte, ce sont les relations avec Dieu, avec notre épouse, notre mari, nos enfants, notre famille, nos amis. Mais si on est insensé, si on est sans compréhension, c'est tout à fait logique qu'on n'ait pas ces bonnes priorités. On était désobéissant. C'est notre vieille rébellion dans notre cœur qui fait que si on nous dit de faire quelque chose, on va faire le contraire. Si vous voulez que les gens touchent le mur, vous dites « peinture fraîche, ne pas toucher ». Et les gens vont mettre le doigt pour vérifier si c'est bien vrai. Au point que pour introduire les pommes de terre en France, qui venaient d'Amérique du Sud, l'intendant du roi, Parmentier, avait eu la brillante idée de... Les gens ne voulaient pas manger de ces racines, ces tubercules bizarres, qui n'avaient aucun goût quand on les coupait en deux. Et il a eu l'idée de les planter sur le champ de Mars et de mettre des troupes autour du champ. Et ces soldats en armes avaient pour consigne de laisser passer les voleurs. Et les gens se sont dit, ah, on nous l'interdit, ça doit être bon. Et ça a marché, et du jour au lendemain, maintenant, on est le pays des frites avec la Belgique. Parce que on a ce réflexe de désobéir. On était égarés. Égarés, c'est le mot qui nous a donné le mot de planète. On a tous cette idée du cosmonaute quand ils sortent de leur capsule là, qu'ils vont faire des travaux reliés avec un câble qui leur assure l'oxygène et la liaison avec la sécurité. Si jamais ce câble se coupe et qu'ils partent à la dérive dans la galaxie, eh ben c'est ce que ce mot veut dire. On était aussi perdu que quelqu'un qui serait perdu en dehors de son vaisseau spatial et qui flotte dans l'immensité du cosmos. C'est ce qui faisait penser Pascal pensait à ça. Il n'avait pas les cosmonautes, mais il disait qu'il était perdu entre deux mondes, le monde de l'infiniment grand et le monde de l'infiniment petit. Et c'était une introduction à sa déclaration de sa foi en Dieu, du Dieu biblique. Et puis nous étions aussi esclaves, asservis à toute espèce de désir et de passion. Le mot désir, c'est un mot très fort qui veut dire quelque chose qu'on désire très fortement. Ça peut être des bonnes choses comme des mauvaises choses. Le plus souvent, nous nous laissons entraîner par des mauvaises choses. Et puis il y a des passions, des plaisirs. C'est le mot qui nous a donné hédonisme, la recherche du plaisir, la mentalité du playboy, le club med, tout pour s'amuser. La vie, c'est maximiser son plaisir. Et ça devient un esclavage. Encore une fois, il parlait à une société où l'esclavage était présent partout. Les gens savaient ce que ça voulait dire que d'être esclave, être asservi à quelqu'un. Là, on était asservi à toute espèce. Toutes sortes de choses plus bêtes les unes que les autres, plus tentantes les unes que les autres. Et puis, on vivait dans la méchanceté, dans le mal, dans l'esprit de malice. C'est, on prend plaisir à causer du mal à autrui. Il y a des gens qui prennent vraiment plaisir à faire du mal aux autres, qui cherchent la bagarre, qui cherchent à... Il n'y a pas longtemps, je connais quelqu'un qui s'est retrouvé à marcher près d'une voiture avec un copain. Et dedans, la voiture, il y avait des jeunes qui attendaient que ça. Et la personne a eu le malheur de toucher le rétroviseur sur le côté du trottoir. Ils ont baissé les vitres, ils ont insulté les deux jeunes qui ont continué leur chemin en se disant on les ignore, c'est ridicule. Et quelques secondes plus tard, les gars étaient sur eux, il y en avait un qu'ils avaient déjà fait tomber quelqu'un sur le trottoir. Ils ont frappé l'autre qui a réagi en donnant un coup de poing, s'est blessé le doigt. Mais c'est le genre de choses, ça ne nous surprend pas. On est tous sous le choc de cette tuerie aux États-Unis, de ces enfants à la veille de Noël, entre 5 et 7 ans, tués par quelqu'un qui était dérangé, par quelqu'un qui voulait le mal, on ne sait pas trop, mais alors là, il y a des choses à dire, là aussi, au niveau du gouvernement et des politiques. Je veux bien qu'il y ait une tradition de porter les armes, mais entre porter un pistolet à un coup ou deux et puis avoir des armes automatiques qui peuvent tuer 10 personnes en quelques secondes, c'est... Mais le mal, il est là dans notre monde sans Dieu. Nous étions comme ça, on était prêts à faire du mal. Ce matin, c'est le moment des confessions. Moi, je me souviens et j'en frémis et j'en ai honte, mais ça fait assez longtemps pour espérer que c'est plus dans ma personnalité, quoique je me souviens, j'ai le souvenir que lorsque j'étais en cours préparatoire, j'avais un bon copain qui s'était fait prendre par le maître, et à l'époque, il y avait encore des châtiments corporels en France. Alors, prenez une règle en bois et on vous demandait de mettre vos doigts comme ça, et le prof ou le maître, l'instituteur, frappait quelques coups sur le bout des phalanges. Ça faisait très très mal. Et ce copain avait été pris par le prof, par le maître, et le maître a demandé si quelqu'un avait une règle à lui prêter. Et moi j'étais plus intéressé de plaire au maître que de réaliser que le maître allait utiliser ma règle. Je savais pourquoi il allait faire ça. Moi, monsieur. Et quand j'ai réalisé, j'ai eu honte de moi et j'ai demandé pardon à cet ami. Il m'a jamais pardonné. Non, j'en sais rien. Mais il y a ce principe en nous d'égoïsme et de vouloir plus plaire à quelqu'un qu'à une autorité, peut-être, qu'à considérer l'autre personne et à être prêt à faire du mal. On vivait dans le mal avant de connaître Dieu, dans l'envie. On a parlé de l'envie, de la jalousie. L'envie, c'est le mal-être qu'on ressent parce que quelqu'un a quelque chose que nous n'avons pas. Et nous sommes prêts à ce que cette chose soit volée par quelqu'un d'autre pour que les autres ne l'aient plus. On a cette passion dans notre cœur qui nous fait du mal. On était odieux, plein de haine, et on se haïssait les uns les autres. L'Évangile est plein de cette phrase, les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, servez-vous les uns les autres. Il n'est pas dit servez-vous les uns des autres. Servez-vous les uns les autres. Venez en aide les uns les autres. Et là, avant de connaître Dieu, on avait de la haine réciproque, les uns les autres. Et puis, un de ces « mais » de la Bible, « mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, à ce moment-là, il nous a sauvés. » La bonté de Dieu. cette immense bonté. On a du pot, on pourrait avoir un Dieu qui soit rempli de haine, qui aime faire souffrir ses créatures. Il se trouve que notre Dieu est un Dieu qui nous veut du bien. Et à un tel point, vous le savez, qu'il a donné son Fils. Et il parle de... Il a un amour pour les hommes. C'est le mot philanthropie. On pense à la philanthropie, à un riche mécène qui va fonder des bibliothèques ou des écoles par philanthropie. Ça veut dire l'amour de l'homme. Eh bien, Dieu est rempli de philanthropie. C'est lui l'inventeur de la philanthropie. Et ça a été manifesté. Encore une fois, c'est ce même mot d'épiphanie qui était trouvé au chapitre 2, versets 11 et 13. Dieu nous a sauvés, verset 5, des conséquences de notre péché, de la damnation éternelle, d'être pour toujours éloignés de lui et de tout ce que les bienfaits qui ne viennent que de lui. La lumière brille sur le juste comme sur l'injuste, nous dit la parole. Toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Et si nous étions restés dans nos péchés, ces péchés méritaient la mort. Ces péchés méritaient la mort éternelle. Mais il nous a sauvés. Et c'est pas parce qu'on était des bons chrétiens à l'avance, c'est pas parce qu'on était capable de faire des bonnes œuvres. Ésaïe nous dit que tous nos actes de justice, toutes nos bonnes actions, en fait, sont comme des torchons, des vêtements pollués. Et il utilise un terme très fort qui désignait les vêtements que les femmes portaient pendant leurs règles. Nos meilleures actions, si Dieu n'est pas à l'inspiration, si on n'est pas à Dieu, c'est pollué. On n'a pas fait d'œuvre qui mérite l'amour de Dieu et le respect de Dieu. Ça vient seulement de sa miséricorde, de sa merci, en anglais. De son amour que nous ne méritons pas. Et puis il utilise deux mots. Il y a par le bain de la régénération. On a été comme... Alors je pense pas qu'il s'agisse du baptême. Le baptême est un signe pour les autres qu'on a fait cette expérience, mais on est baigné, on est régénéré. On a une nouvelle naissance. Pour ceux qui viennent à l'étude le vendredi soir, on a étudié dans Jean 3 avec l'épisode de Nicodème qu'il nous faut être né de nouveau. Il nous faut cette nouvelle naissance. On peut pas restaurer le vieil Adam, le vieil homme en nous. On peut pas le réformer. Il faut qu'il meure sur la croix et qu'il soit remplacé. 2 Corinthiens 5, 17, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous pouvez avoir une vieille poubelle en plastique. Le bout du... est un peu cassée, elle tient en place parce que les bords se joignent un peu, elle est pleine de saleté à l'intérieur qui n'a pas été nettoyée. Vous pourriez décider de nettoyer cette poubelle, de ressouder au fer chaud la fente qui s'est développée au cours des mois et des années d'usage. Vous pourriez utiliser le meilleur des nettoyants. Si la poubelle est comme neuve, vous pouvez la montrer à votre femme, dire « Tu as vu cette poubelle, elle est belle maintenant. » Elle va dire « Ah oui, tu l'as bien nettoyée, c'est une belle poubelle. » Mais ça reste une poubelle. On peut essayer de réformer l'homme. On peut essayer de lui donner de l'instruction, de lui faire faire du sport, de lui donner une nourriture saine. Tant qu'il n'est pas venu à Dieu, il reste un pécheur. Il reste une poubelle. Peut être une belle poubelle. La plus belle des poubelles. La poubelle des poubelles. Ça reste un pécheur. Et cette régénération, cette nouvelle naissance, elle se poursuit par un renouveau du Saint-Esprit. Il y a la sanctification qui suit la justification, pour reprendre les termes que Paul utilise dans Romains, dans l'étude de Romains, dans la lettre de Romains. La justification, on est déclaré juste en un moment. Dieu ne se souvient pas de nos péchés, il ne se souvient même pas que nous sommes des pécheurs. Pas possible. Et si, c'est possible. En Jésus-Christ, par sa grâce, par son amour non mérité. Et ça, il l'a répandu sur nous, pas juste un peu, mais avec abondance. Il y a des personnes au café, si vous les connaissez, quand vous leur demandez un peu de chantilly sur votre cappuccino, ils vont répandre la crème chantilly en abondance. Ils vont vider la bombe sur votre cappuccino. Dieu, c'est pareil. Il a pris la bombe et il en a, ça dégouline de partout, c'est en abondance. Et ça, dans un but, c'est que, afin que, déclarés justes par sa grâce, nous puissions participer, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Dieu est prêt à nous donner cette vie éternelle. Ça commence maintenant. L'espérance, c'est pas encore une fois, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est la garantie, l'assurance d'un bien qui va venir. Tout ça, vous le saviez déjà. Mais il est bon de le rappeler. Amen. Amen. C'est bon de le rappeler parce que ça produit de la gratitude. Quand on voit d'où Dieu nous a sortis, on lui dit merci. Ça nous donne de l'humilité. Parce que quand on voit les païens autour de nous, ceux qui ne sont pas encore touchés par la grâce de Dieu, on n'est pas hyper dégoûté par ce qu'ils ont fait, parce que nous-mêmes, on ne valait pas mieux qu'eux. Ça nous conduit à de la douceur, de la gentillesse envers les autres. On n'est pas rempli d'orgueil dans notre propre justice. Oh, jamais je pourrais faire une chose pareille. C'est bon d'avoir cette humilité, de reconnaître qu'en nous, il y a cette possibilité de faire beaucoup de mal. Et puis ça nous donne la foi que le changement est possible. Le changement est possible non seulement en moi pour être encore plus près de Dieu, dans ce renouveau continuel, dans cette sanctification, je ressemble de plus en plus au Fils de Dieu, à mon grand frère Jésus-Christ, mais aussi pour ceux qui n'ont pas encore été touchés par la grâce. Cette personne intenable qui travaille avec vous au bureau, qui s'est touché par la grâce, et vous pouvez être un instrument utilisé par Dieu pour lui montrer l'amour de Dieu. Vous pouvez prier pour ces dirigeants qui ne savent pas ce qu'ils font, et Dieu va les toucher par sa grâce, et ils vont commencer à prendre des bonnes décisions pour le bien de tous. Ces députés qui se disputent par orgueil, vous pouvez prier que le Seigneur les touche, qu'ils voient la folie de leur attitude. Voilà, c'est un rappel en même temps de ce que James vous a enseigné en étudiant Colossiens. C'est quelque chose qui est rappelé dans toute la Bible. 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Dans Philippiens, on terminera avec cette citation, Philippiens 2, 14 et 15. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci de nous rappeler ces choses, Seigneur. Merci de nous rappeler d'où nous sommes venus, et merci de nous rappeler le merveilleux salut que tu as opéré en nous, Seigneur. Aide-nous à être ces lumières dans un monde de ténèbres, à respecter les autorités, à ne dire du mal de personne, à être un encouragement, à aider ceux qui nous entourent, à parler aussi, à dire en parole ce que tu as fait pour nous en montrant des vies qui sont en accord avec ce merveilleux salut. Seigneur, sois glorifié dans nos vies. Aide-nous. Nous savons que nous nageons à contre-courant. Nous avons en nous encore cette vieille nature qui veut montrer son visage hideux. Donne-nous de voir la victoire de ton esprit en nous, Seigneur. Cet esprit qui est venu en nous lorsque nous sommes nés de nouveau, Seigneur, dans cette nouvelle génération, dans cette régénération, qu'il soit à l'œuvre pour nous transformer, pour nous renouveler en profondeur. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et tous dire Amen.